Et si tu n'étais plus jamais débordé par une seule émotion, ni celle de tes enfants, ni les tiennes, comment ce serait pour toi? Je te donne rendez-vous le samedi 16 septembre à 10h30 pour une masterclass offerte sur ce sujet-là. Le lien d'inscription est dans la bio et en légende de cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute, à très vite. Bonjour! Bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Si vous venez d'arriver sur mon compte, vraiment bienvenue, accrochez-vous parce qu'au début, ça tangue un petit peu avec ces outils-là. Mais je vous fais un tout petit refresh. C'est que nos flammes dans notre cheminée des émotions sont toutes légitimes, mais on ne sait pas les décoder. Nos flammes viennent d'un besoin sur notre arc-en-ciel des besoins qui n'était pas satisfait, qui n'était pas nourri. Quand je connais mieux mes besoins, je vois pourquoi cette flamme est aussi forte dans ma cheminée des émotions. Si je ne connais pas mes besoins, si je ne scanne pas mes rayures d'arc-en-ciel des besoins, elles sont dans l'épisode 7, si vous voulez les entendre, je risque de reprocher aux gens autour de moi mon état émotionnel. Je risque de dire que c'est à cause de mon conjoint si je suis en colère, à cause de mon enfant si je suis triste, à cause de mon patron si je suis en dépression, parce que j'oublie que je suis la principale source pour nourrir mes besoins, pour apaiser mes flammes désagréables, pour augmenter mes flammes agréables. Et ça demande de l'introspection, ça demande parfois du soutien, parce que toutes ces notions, déjà on ne les a pas apprises. Moi, je les ai découvertes sur le tas dans ma classe avec mes élèves de 2 ans, et j'aurais aimé les connaître plus tôt, et j'aurais aimé les pratiquer plus tôt, parce qu'il y a au moins 10 ans d'élèves où j'aurais pu comprendre mieux les comportements de mes élèves, justement de confrontation. Au tout début, je parlais de confrontation. Si j'avais eu ces outils-là, ma pratique professionnelle aurait changé beaucoup plus tôt. Le fait est qu'il en fallait que j'arrive à avoir des enfants qui se roulent par terre, qui lancent des chaises, qui s'accrochent aux poignées de porte et des mamans qui pleuraient derrière la porte en même temps pour comprendre qu'il fallait trouver un outil concret. Et cette maman qui pleurait derrière la porte pendant que son fils lançait des chaises sur tout le monde dans ma classe, de frustration, de refus de la séparation, une maman qui culpabilisait de son côté, les deux cheminées se contaminaient mutuellement. Et c'est comme ça que les outils sont nés. Cette maman m'a permis de voir que l'émotion de son fils la contaminait en culpabilité et qu'elle-même, en retour, envoyait une flamme d'incompréhension parce que son fils ne la sentait plus à même d'être résistante pour les repères, pour le cadre. Donc, personne n'est responsable du comportement de l'autre, mais il y a une contamination très régulièrement entre ce que l'enfant fait et ce que le parent ressent. Et inversement, parfois, ce que le parent fait a une résonance émotionnelle chez l'enfant. Si nous, en tant que parents, on arrive à faire de la clarté sur ce phénomène, de prendre la responsabilité de nos flammes, de nourrir nos besoins nous-mêmes, de ne plus laisser les autres impacter notre vie intérieure ou alors juste le bon dosage pour éviter après de leur reprocher nos insatisfactions, nos impuissances. Je ne dis pas qu'on va réussir à tout régler et nourrir tous nos besoins. C'est absolument impossible de nourrir tous les besoins parce que là, sur l'arc-en-ciel, on en est à peu près à 166 besoins. Certains ne sont pas prioritaires pour vous, certains ne sont pas prioritaires tout le temps, mais il y a des besoins qui clignotent de plus en plus, et plus il y a de besoins qui clignotent sur vos rayons d'arc-en-ciel, et plus vos flammes sont désagréables. C'est comme si on mettait vraiment un couvercle en disant « Non, 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 je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. » Mais dès que votre enfant fait un comportement que vous jugez inacceptable, comment voulez-vous continuer à tenir dans vos flammes d'émotion, puisque tout ce qui va être autour de vous va vous redéclencher, va attiser les flammes dans votre cheminée des émotions. Donc, bien souvent, je vous invite à séparer l'action de votre enfant de votre état émotionnel. C'est vraiment une première piste si vous me découvrez. La deuxième solution, c'est d'aller creuser le besoin que votre enfant cherchait à nourrir de façon maladroite avec son action. Peut-être que dans un élan d'autonomie, il a voulu porter la carafe et servir de l'eau à table et que maladroitement, sa motricité n'est pas encore assurée et qu'il a renversé de l'eau partout et que la carafe est tombée et qu'elle s'est cassée. Mais ça partait d'une envie de montrer qu'il est grand, de montrer qu'il sait faire, d'autonomie, de liberté, de puissance personnelle. Quand on revisite l'action de notre enfant par ce prisme-là, on se dit « Waouh, ben mon enfant, il voulait me montrer ses compétences. Il voulait faire quelque chose des grands. Il voulait faire comme les grands. » Et vous sentez peut-être déjà, quand je l'explique, qu'on redescend notre flamme de colère et de frustration. Oui, il y a de l'eau partout. Oui, la carafe est cassée. Oui, on perd du temps. Mais en relation, on peut dire « Mon enfant cherche à faire des choses difficiles. Mon enfant a une belle autonomie. Il essaye de muscler sa motricité fine. Il est là pour contribuer. » Qu'est-ce qu'on met en relation? J'ai le choix. J'ai le choix de m'énerver, de hurler, de taper, de punir, de lui dire « C'est pas possible, t'es maladroit, tu fais exprès, je peux pas compter sur toi, t'es nul. » Toute la guirlande d'insultes que vous voyez peut-être autour de vous, que vous avez peut-être dit, que j'ai aussi dit. Par moments, il y a des phrases qui nous échappent. Ça n'a rien à voir avec l'intention de votre enfant. C'est ce qu'on se raconte sur ce que l'enfant a fait et sur les conséquences désagréables qu'on voit et qui s'empilent comme des dominos en se disant « il y a encore ça de plus à régler » alors que dans ma cheminée, j'avais déjà des flammes qui me gonflaient. Donc, on ne peut pas remettre à zéro le compteur des émotions dans notre cheminée en continu, mais plus vous allez muscler votre routine émotionnelle, ça va être une des publications dans les prochaines semaines. Je vous apprends à le faire en scan individuel si vous voulez, je vous l'apprends aussi en projet long, hein, si vous avez envie de vous faire accompagner là-dessus. Ces outils-là, je vous les donne clé en main. Je vous apprends à le faire pour vous. Et vous voyez les bénéfices sans doute que vous allez en retirer. C'est que quand vous arrivez à traduire tous les comportements de votre enfant en termes de besoins, en termes de maladresse de stratégie, parce que ces besoins-là, il ne les conscientise pas. Il n'a pas encore l'option d'éventail pour nourrir ce besoin-là de manière cohérente, qui vous arrange au bon moment. Parce qu'un enfant, ça ne fait pas les choses au moment où nous, on voudrait. Mais par contre, on peut les traduire en termes de besoins et s'émerveiller, pas toujours, hein, mais s'émerveiller la plupart du temps que notre enfant, dans son intention, essayait de nourrir un besoin. Donc, comme un petit détective, je vous invite à dire quel besoin il voulait nourrir, sur quelle rayure. Il a choisi cette stratégie. C'est vrai que cette stratégie, elle est pas top. Franchement, je vois bien que c'est ce besoin-là qu'il voulait nourrir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme nouvelle stratégie qui soit plus optimale pour son âge, pour sa maturité, pour l'impact que ça va avoir sur mon écosystème à moi, sur ma vie à moi de maman, de parent? Si en plus vous avez 3 enfants et que chaque enfant est très indépendant dans ses choix et ses stratégies, ça fait double volume de réflexion. Mais vous voyez que voir les choses sous cet angle vous évite de corréler votre émotion avec le comportement de votre enfant. Votre enfant a un développement sur le choix de ses stratégies qui va être renforcée par votre attitude à l'accompagner sur ces choix-là. Si je m'énerve à chaque fois que mon enfant dérape, déraille, que je le punis, que je lui crie dessus, il aura moins envie de contribuer, il aura moins envie d'agir, il pourrait agir en douce, parce que ses besoins, il aura quand même besoin de les nourrir. Et donc, au lieu de le faire devant nous, de s'améliorer, à verser de l'eau dans les verres, eh bien, soit il va plus rien faire du tout, soit il va faire ailleurs, sans protection, peut-être avec plus de risques, alors qu'on peut être là pour l'accompagner. Donc c'est beaucoup de choses à requalifier, hein. Si c'est vraiment la première fois que vous entendez un de ces lives, ça peut être un peu intense. Donc prenez le temps de m'envoyer un message privé si vous avez une question sur un des termes que j'ai utilisé. Parce que cette corrélation entre les besoins de mon enfant et mes émotions, vous allez le retrouver tous les jours. Tous les jours, vous allez pouvoir faire des liens entre comment vous vous sentez intérieurement dans votre cheminée et quel comportement de votre enfant a été un déclencheur indirect de cette émotion. Je vous parle de votre enfant, mais bien entendu, vous pouvez transférer avec votre mari, avec votre patron, avec votre belle-mère, avec votre petite voisine, la mamie, qui vous demande toujours des services. Parce que tous ces outils sont adaptables à volonté, et c'est ce qui me plaît vraiment dans mon écosystème maintenant. Et puis hier, je vous ai partagé en story le hashtag « conflit de besoin ». Et j'ai envie de vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un conflit de besoin. Pour ceux qui ont déjà fait de la communication non violente, vous savez qu'on a parfois des besoins un peu contradictoires. On peut avoir à la fois un besoin d'action et un besoin de repos. Donc on va les faire simultanément, c'est plus rare, on va les faire plutôt à la suite ou dans des créneaux différents. Et puis, des fois, c'est des conflits de besoins entre deux personnes qui vous sont chères. Ma fille, à 22h30, a décidé qu'elle voulait des tresses collées. Moi, j'étais éclatée de ma journée. Et donc, je ne vous cache pas qu'à 22h30, quand ma fille a fait une demande en bonne et due forme, une demande CNV, « Maman, ça me ferait trop plaisir que tu me fasses des tresses collées. En fait, tu les fais trop bien. Et voilà, j'aimerais bien que tu m'en fasses. » Demande, quels sont ses besoins? Son besoin de se sentir belle, son besoin que je contribue à sa coiffure, son besoin d'efficacité parce qu'elle sait que si c'est elle qui les fait, ça va l'agacer très vite parce qu'elle n'arrive pas à le faire. Et donc, elle se fie comme stratégie à un moyen extérieur pour obtenir ce qu'elle veut. Je suis la petite main qui va lui faire ses tresses. Donc, j'entends le besoin de ma grande d'avoir ce moment de connexion avec moi, d'avoir ce résultat, d'avoir des tresses collées au niveau esthétique, au niveau harmonie, au niveau estime d'elle, parce que si elle se sent belle, je suis contente qu'elle se sente belle et qu'elle rayonne et qu'elle ait confiance en elle. Oui, mais moi en face, si j'étais honnête, ce conflit de besoins, est-ce que vous voyez sur quoi il a tapé? Il a tapé que j'entends les besoins de mon ado, j'aime faire plaisir à mon ado, j'aime me connecter et passer des tequilles avec mon ado. Mais moi, à ce moment-là, être debout pour lui démêler les cheveux et pour tresser ses cheveux, était en conflit direct avec mon besoin de glander sur le canapé et de regarder une série, était en contradiction avec ne pas avoir à discuter parce que j'avais discuté toute la journée, ne pas entendre de bruit supplémentaire et surtout, vraiment physiquement, relâcher musculairement la pression. Donc j'ai dû équilibrer ces deux besoins-là, j'ai dû arbitrer ces besoins-là. Donc le hashtag que je vous ai posé en story, conflit de besoins, vous l'avez sûrement déjà vécu, de vous à vous ou de vous avec un de vos enfants. Ça peut être le cas quand votre enfant dit « Vas-y, on remet la musique pour la quatrième fois » et que lui, ça lui fait super plaisir, mais que vous, vous avez l'impression que ce sera la fois de trop si vous réécoutez cette chanson-là encore une fois. Donc le conflit de besoins, ça peut être un élément très intéressant pour voir vos limites, pour sentir est-ce que vous allez reprocher à l'autre votre état émotionnel si vous dites oui, et de voir quelle est votre limite pour dire non. D'aller vraiment chercher si le oui que vous allez donner à l'autre, il vous nourrit tous les deux quand même. Pourquoi j'ai fini par faire des tresses à mon ado alors que j'étais explosée? C'est parce que j'ai senti que contribuer à son estime d'elle, à sa confiance en elle, à répondre à une demande, même si l'horaire n'était pas adapté pour moi, c'était aller dans le sens de la relation que je veux à long terme avec mon ado. J'aime que mon ado me demande des interactions et me propose des choses dont elle me rend une des stratégies possibles. À ce moment-là, elle aurait pu demander à personne d'autre de lui faire des tresses collées. Donc oui, c'est maladroit, c'est l'horaire qui me dérange, c'est tombé sur un jour où j'étais fatiguée, mais ce conflit de besoin, on peut en sortir gagnant quand on voit ce qu'on gagne à dire oui, quand on voit ce qu'on gagne à dire non. J'aurais pu dire non à mon ado, elle sera remontée en claquant la porte dans sa chambre, ce ne sera pas la première ni la dernière fois, parce que quand je dis non à ses demandes, c'est ce qui arrive, mais j'aurais gagné que j'aurais pu m'allonger, glander et me reposer. J'ai choisi l'autre versant où je ne peux pas me reposer, je ne peux pas glander, je ne peux pas relâcher musculairement ma journée, mais je garde le lien, je garde la connexion et je contribue à son estime d'elle. Donc quand vous avez une grosse tension, que vous avez quelqu'un qui vous réclame, demande, essaye de persuader qu'il y a une pression au niveau d'une demande extérieure, essayez à nouveau, vous savez hein, que je pratique quasiment que ça, de scanner votre état de cheminée intérieure et d'aller scanner votre arc-en-ciel de besoin. Si cette notion du scan vous intéresse, vous allez retrouver dans ma bio le lien Calendly pour prendre rendez-vous pour une séance. Je vous apprends la méthodologie, comment scanner vos flammes, comment scanner vos besoins. Et comme ça, vous pourrez le faire à chaque fois que vous avez une situation inconfortable et désagréable. Si vous savez déjà le faire, je vous encourage à le faire dès que vous sentez que ça picote, que ça gratte, de vous dire comment je me sens, quelle est ma flamme, quelle est son intensité, d'où vient-elle, de quelle rayure de besoin, où est-ce que ça clignotait, en quoi c'est le comportement de l'autre qui est venu taper sur ce besoin-là. Et maintenant qu'on a les causes, maintenant qu'on a l'origine, maintenant qu'on a l'allumette, ensuite on peut co-créer la stratégie, la sortie d'inconfort, l'éventail de stratégies pour aller nourrir le besoin qui clignotait. Vous avez comme ça un refresh de ma pratique, de mes outils, en tout cas les trois principaux que vous découvrez là, le tequil, le temps de qualité, qui va nourrir les besoins sur votre arc-en-ciel des besoins et qui va apaiser vos flammes désagréables dans votre cheminée des émotions. Toutes ces notions-là, vous allez les retrouver dans le parcours émotisène. Donc si vous voulez profiter, il y a encore les préventes jusqu'au 14. Cliquez dans la bio, vous allez voir Parcours Emotizen. Pour écouter les témoignages, vous les avez dans le podcast, les témoignages d'Alexandra, de Jeanne, de Mattel et de Valsou, pour savoir comment ça a changé leur vie de famille, même leur vie intérieure et leur vie professionnelle, parce que Mattel en parle beaucoup aussi. Ces notions-là, elles servent dans la famille, parce que moi j'ai choisi de parler beaucoup aux mamans, parce que je l'ai découvert à l'école en tant que maîtresse de tout jeunes enfants en accompagnant les mamans, et dans ma famille avec mes deux filles. Mais vous allez voir que ces outils, ils sont vraiment transversaux et que vous allez les utiliser dans plein de domaines de vie. Donc, je reste sur ce thème de la parentalité, mais faites-moi confiance, ces outils-là, ils vont vous servir bien au-delà de votre relation à vos enfants. Et parfois, il y a des mamans qui me disent « Mais moi, mes filles, elles ont 17 et 20 ans, est-ce que ça me servira encore ?» Je fais « Oui, parce que la relation, c'est exactement la même. » Et en fait, de comprendre la réaction de notre enfant, de comprendre notre réaction, va nous aider à nous donner des clés pour la communication avec nos ados, avec les adultes. Si nous, on est responsable uniquement de nos émotions et qu'on est capable d'écouter les besoins de l'autre sans être le fournisseur officiel de stratégie, parce que nos ados, tant qu'on va nourrir leurs besoins, bah ils vont se dire « c'est cool, hein ?» J'ai pas besoin de les nourrir moi-même puisque maman est là pour s'occuper de moi et de mes besoins. C'est exactement ce qu'elle a essayé de faire hier en se disant bah, « Maman, écoute, les tresses, ce serait trop bien. Je te passe un petit coude sur le dos en disant « C'est toi qui fais les meilleures tresses, j'ai trop envie d'avoir des tresses. » Elle a testé pour voir si j'allais aller dans le sens de ses besoins. Elle a bien fait, ça a marché. Ça aurait pu ne pas marcher. Donc la relation que vous avez à vos émotions est parallèle, en miroir à la relation que vous avez aux émotions de vos enfants, quand vous allez libérer vos émotions d'une manière de responsabilisation, sans les faire porter à votre enfant, vous allez en plus modéliser et incarner ça pour vos enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient déjà ados. Et ma grande fille, vous le savez sans doute, hein, n'a pas eu la maman aussi calme et zen que la petite a actuellement, Ma grande fille a une maman confrontante, une maman qui allait à l'essentiel, qui était brusque, qui la secouait et qui lui disait non, ah, ça suffit, arrête de chouiner, qui n'était pas dans une écoute empathique, qui était dans une écoute de j'ai assez fait pour toi, ça suffit, arrête tes caprices, arrête tes bêtises, arrête de chouiner. Et je vous en parle souvent dans le podcast, il y a un chemin d'évolution entre la parentalité qu'on a reçue, la parentalité qu'on commence à faire avec notre premier enfant, et puis la parentalité qu'on veut atteindre. Si vous ne voulez rien changer dans votre parentalité, je vous félicite parce que c'est vraiment quelque chose que je vois assez rarement. Et si vous voulez faire évoluer votre parentalité vers plus de compréhension de vos flammes à vous et plus de compréhension des flammes de vos enfants, vous savez où me contacter. Je serai ravie de partager tout ça. Il y a une super masterclass qui s'annonce, donc vous êtes déjà pas mal à être inscrit. Si vous n'êtes pas libre, vous aurez le replay. Mais inscrivez-vous et on va parler de contamination émotionnelle. On va parler aussi du secret pour maintenir tous ces outils sur le long terme. Parce que quand vous me découvrez, vous comprenez la théorie, mais sur la pratique, c'est beaucoup plus dur à installer. Donc je vais vous donner le secret pour installer ça. Et puis évidemment, la méthode en 5 piliers pour développer la parentalité que vous voulez, vous, sans vous laisser submerger par le stress, par les émotions fortes et surtout par le comportement de vos enfants. Donc on verra tout ça. Mais si vous voulez déjà un aperçu de tous ces outils-là, vous pouvez bien sûr vous abonner, m'envoyer des messages sur Instagram. Je vous souhaite de prendre soin de vos besoins. Je vous souhaite vraiment une très belle exploration de vos émotions dans votre cheminée des émotions et puis de votre arc-en-ciel des besoins, épisode 7. Si vous avez envie de connaître tous vos besoins et toutes vos rayures, vous allez voir, c'est vraiment un autre continent. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!